vais passer maintenant la parole à notre conférencier,
le professeur Henri Rehm, qui va vous poser la question capitale: sommes-nous seuls dans l'univers?
Henri?
Merci, Président. Alors, sommes-nous seuls dans l'univers? Je vais commencer par remonter un petit peu le temps. Quelles étaient nos connaissances en 1837, il y a pas peu de temps? Eh bien, pas grand-chose. On savait bien qu'il y avait le Soleil, autour duquel gravitaient quelques planètes: Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne et Uranus, qu'on appelait Herschel. On ne connaissait pas encore Neptune, qui a été découverte en 1846. Et puis on savait qu'il y avait quelques comètes et un astéroïde qu'on appelait Piazzi ou Cérès. Aujourd'hui, on l'appelle Cérès. Alors, depuis, les choses ont bien changé. On sait que notre univers est peuplé de galaxies, que notre galaxie, la Voie lactée, représente à peu près 200 milliards d'étoiles, qu'il y a des centaines de milliards de galaxies et probablement davantage. C'est donc un nombre considérable d'étoiles qu'il y a dans l'univers. Notre propre galaxie est une galaxie spirale. Vous voyez la forme des bras de cette galaxie vue de haut, et le Soleil est dans la banlieue de cette galaxie. Le Soleil, c'est un énorme réacteur nucléaire. L'énergie solaire, c'est de l'énergie nucléaire, de fusion nucléaire, et c'est grâce à cette grosse machine que nous sommes là. C'est l'énergie, toute l'énergie vient de ce Soleil. Donc, vers 1950, on savait qu'il y avait le Soleil, qu'il y avait 8 planètes plus Pluton qui depuis a été dégradé, et il y avait, bien connu aussi, la structure d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Alors, je vais donner quelques chiffres, non pas pour vous assommer, mais pour vous montrer dans quel système on est. La distance moyenne de la Terre au Soleil, c'est rien, c'est 150 millions de kilomètres. La lumière nous met 8 minutes. Il faut bien voir, quand vous voyez le ciel, c'est pas un instantané. Tous les objets que vous voyez sont à des temps différents. Et le Soleil, il est à 8 minutes. Bon. La distance moyenne Terre-Lune, ça c'est rien, c'est 2 secondes lumière, 300 000 km par seconde. Bon, après, vous avez la distance Mars-Soleil, c'est 200 000 millions de kilomètres. L'étoile la plus proche est à 4,3 années-lumière. C'est-à-dire, vous voyez ce chiffre, 40 000 milliards de kilomètres. Ensuite, les dimensions de notre galaxie, ça représente à peu près 100 000 années-lumière, soit 9,5 milliards de milliards de kilomètres. La galaxie la plus proche est à 140 milliards de milliards de kilomètres, et l'univers, quand on estime qu'il a à peu près 13,8 milliards d'années, ça représente ce chiffre en kilomètres. Vous voyez bien que c'est-à-dire 130 000 milliards de milliards de kilomètres. Vous voyez que le kilomètre est une unité absolument ridicule pour l'univers. Alors, je vais changer d'unité et je vais dire, je vais vous représenter un système où la distance Soleil-Terre est de 1 mètre. Au lieu de 150 millions de kilomètres, je divise tout par 150 milliards. Eh bien, à cette échelle, bon, la distance Soleil-Terre, évidemment, c'est 1 mètre, donc vous voyez, la distance aux planètes, c'est quelques mètres. À cette échelle, l'étoile la plus proche est plus loin que Bordeaux, à 270 km. Et la vitesse de la lumière n'est plus que de 2,4 mm par seconde. Eh bien, même à cette dimension-là, la galaxie fait 6 300 000 km et l'univers 865 milliards de kilomètres. C'est absolument gigantesque. Alors, le système solaire, le Soleil, est ici 99,8% de la masse du système solaire, 4 petites planètes, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, et 4 planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Alors, les petites planètes qui sont ici tache du soleil, elles ont des dimensions avec des rayons qui sont de quelques millions de kilomètres, et leur densité est relativement élevée. Alors que les planètes géantes sont beaucoup plus loin du soleil, elles sont beaucoup plus grandes, et elles ont des densités beaucoup plus faibles. On estime que les composants légers au moment de la formation des planètes, eh bien, sont restés pour les planètes géantes, alors que les planètes petites se sont formées trop près du Soleil pour avoir gardé ces composants légers. Voilà la vision qu'on a du système solaire au point de vue planétaire. Donc, une petite planète, les planètes telluriques, les quatre planètes que je vous ai citées, qui sont près du Soleil, pas dans l'eau, pas de satellite à part d'un accident comme la Lune. Et donc, Mercure, impossible de vivre. Vous voyez, température entre 427 et moins 183, ça ressemble beaucoup à la Lune. Vénus, c'est invivable aussi, des températures énormes, un effet de serre considérable, donc énormément de CO2, mais c'est rempli d'acide, de sulfurique par exemple, et de d'autres choses très peu agréables, c'est absolument invivable. La planète rouge Mars, bon, vous avez déjà vu ces photos de Mars, on n'irait pas passer ces vacances, hein. Mars Pathfinder, voici, c'est déjà un résultat assez ancien, vous avez les pics, vous voyez ça, mais plus récemment, voici le, ça c'est un bras du rover Curiosity qui est sur Mars, et vous voyez toujours ce même genre de spectacle désolant. Quatre planètes géantes, elles sont donc grosses, remplies d'hydrogène et de l'ion, c'est essentiellement, et il y a beaucoup de satellites, avec un système d'anneaux, toutes ces Saturne évidemment un système d'anneaux, mais les autres planètes géantes aussi, elles sont loin du Soleil. Et voilà toutes les cartes. Bon, évidemment, les anneaux de Saturne sont très visibles, mais les autres non. Et puis, il y a les petits corps du système solaire. Et ces petits corps, ils sont petits, mais ils sont importants. Il y a d'abord les astéroïdes. Ce sont des gros morceaux de roches, de métal de toutes formes. Le plus grand céleste est 950 km de diamètre. Mais si on les a regroupés tous ensemble, tous les astéroïdes, la structure des astéroïdes ferait un seul objet qui aurait moins de 1500 km de diamètre. Alors, ça c'est Cérès vu par Hubble. Et voici un astéroïde absolument classique, Gaspar, vous voyez, quelques dizaines de kilomètres, 19 sur 12. Et alors, vous voyez les traces d'impact. Le système solaire à l'origine, ça a été sans arrêt de bombardement, sans arrêt des impacts. Donc, nous avons la ceinture d'astéroïdes qui est entre Mars et Jupiter, en fait, c'est une planète amortée, à cause des effets gravitationnels de Jupiter. Vous voyez cette masse d'astéroïdes, ici on est dans le plan de l'éclipse, et on en connaît, on estime qu'il y a plus de 30 millions d'astéroïdes de plus de 100 mètres dans cette ceinture. Et puis, il y a le deuxième ceinture d'astéroïdes dont je reparlerai tout à l'heure, c'est la ceinture de Kuiper, qui est au-delà de l'orbite de Neptune. Et ce sont des corps qui ont été balayés par les planètes géantes et qui ont été envoyés au-delà de l'orbite de Neptune. Alors, qu'est-ce qu'une comète? Une comète, c'est une grosse boule de neige sale qui fait quelques dizaines de kilomètres ou quelques kilomètres de dimension avec des gaz gelés. Et en approchant du Soleil, les comètes se réchauffent, donc elles dégazent. Et les gaz se passent directement de l'état gazeux, de l'état solide à l'état gazeux, sans passer par la phase liquide, c'est la sublimation de la matière. Et alors, un petit corps comme ça, de quelques kilomètres, peut donner naissance à une queue qui peut faire plusieurs millions de kilomètres. Alors, c'est connu depuis très longtemps. Voici un exemple de livre de soie du 4e siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez, des dessins de Chinois sur le livre de soie, donc très très ancien. C'est connu aussi, voici la tapisserie de Bayeux qui date donc de la fin qui a été faite après la bataille d'Hastings. Et il y a une comète qui est passée à 15 millions de kilomètres de la Terre, elle a été très visible, la voici représentée ici. Et évidemment, ceux qui ont gagné la bataille ont considéré que c'était un signe tout à fait favorable, alors que les Anglais qui ont été envahis ont considéré que c'était un très mauvais signe. Bon, mais en fait, c'est la comète de la Lune, elle a été surnommée comète de la Lune bien plus tard. Aussi, la grande comète de Prague en 1577, elle a dû être particulièrement spectaculaire, mais bien que les dessinateurs aient peut-être un peu exagéré. Voici la comète de Chézot, qui a dû être absolument magnifique, mais qui a dû en fait se fragmenter en plusieurs morceaux, en passant près du Soleil. Et la comète Lovejoie, qui a été vue en 2011, vous voyez par exemple, là voici. Alors ça ne passe pas comme un météore, mais vous l'avez un soir, puis vous l'avez le lendemain soir, elle passe loin, donc elle va vite, mais on les voit, c'est pas du tout comme un météore. Hein. Et on pensait qu'en ces jours-ci, on allait avoir une magnifique comète, disons, mais elle est passée le 28 très très près du Soleil, et elle a laissé tout peu les couilles. Alors, on la revoit maintenant un petit peu, mais c'est vrai qu'elle n'est pas du tout spectaculaire comme on pensait qu'elle pourrait être. Donc voilà, ça c'est la trajectoire de la comète de Halley. Et, vous voyez, quand elle se rapproche du Soleil, eh bien, elle s'échauffe, elle est de plus en plus visible avec les deux queues, et puis après, quand elle s'éloigne, elle peut diminuer, et elle passe ensuite là, ici, où elle est trop loin du Soleil pour dégager. Et comme, d'après la loi de Kepler, elle passe beaucoup plus vite ici que là, eh bien, la plupart du temps, on ne la voit pas. Alors, on craignait vos comètes. Voilà un exemple de crête, là, papier de 580, alarme pour l'Europe à cause de la comète. Parfois, les moyens utilisés, voici le moyen des Chinois au 19e siècle, avec la comète, ça n'a pas dû être particulièrement efficace. Ah, il y a, en 1910, il y a eu une crête énorme parce que on avait trouvé des traces de cyanure dans la queue de la comète de Halley. Et on pensait que la Terre, en passant à travers la queue, ça allait faire des dégâts. Mais en fait, il n'y a pas eu de dégâts du tout. Il y a eu pas mal de repas de fête du monde. Il y a même des dames qui ont dit qu'il faut vraiment faire un rite et tromper dans Marie avant que la comète passe. Il y a eu la publicité déjà à l'époque. Vous voyez la publicité pour le marché. Voici, et alors, les effets, si ça existe. Ça existe. Voici le météore cratère. C'est un exemple bien connu. C'est le résultat d'un impact qui a eu lieu il y a à peu près 50 000 ans. Les dimensions ici, ça fait 1400 mètres à peu près. La profondeur 200 mètres à peu près. Et c'est un météorite de 45 mètres de diamètre, d'une masse de 300 000 tonnes, qui a fait donc ce trou, qui est très très spectaculaire, mais c'était un tout petit corps. En 1908, il y a eu la tour Mouska, un événement qui, sur des centaines de kilomètres, a battu tous les arbres, a coulé des milliers de rennes, pas d'homme, parce que c'est quasiment inhabité. Et ça aurait été sur New York, par exemple, ça aurait été épouvantable. Et donc voilà, ça représentait à peu près 1000 francs en énergie, 1000 francs la bombe atomique d'Hiroshima. Voilà. Et on a trouvé des restes de la comète uniquement en 2010. Oui. Et tout récemment, au mois de février cette année, il y a eu l'événement de Tcheliabinsk, où encore d'environ 15 mètres, quelques photographies qui ont pénétré dans l'atmosphère, il y a eu près de 1500 blessés, essentiellement par le souffle qui a cassé les carreaux, qui a même abattu des murs. Et il n'y a pas eu de mort, mais c'est un véritable miracle. Donc c'est un danger. C'est un danger, et quand on regarde sur la Terre, on s'aperçoit qu'on a à peu près identifié 150 cratères. 150 cratères, mais qui s'effacent petit à petit, parce qu'il y a l'érosion, il y a la tectonique des plaques, tout ça. Sur la Terre, ces traces ont tendance à disparaître. Il y en a une qui est particulièrement importante, c'est il y a 65 millions d'années. Vous voyez, ici, Chichulú, au Mexique. 67% des espèces de l'époque ont disparu, dont les dinosaures. Eh bien, s'il n'y avait pas eu cet impact, notre ancêtre, grand comme une petite souris, ne serait sûrement pas développé et ne serait sûrement pas là pour en parler. Alors, les risques d'impact, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si un corps de la taille de 10 km, à peu près, pénètre dans l'atmosphère terrestre, évidemment, l'atmosphère n'est pas capable de nous protéger. Ça fait que, heureusement, il y a à peu près qu'une fois tous les 100 millions d'années, mais les conséquences seraient dramatiques. Guerre nucléaire, disparition de l'humanité, catastrophe globale. Je ne vous dis pas si c'est ça à 200 km, parce que ça, c'est la vie sur Terre qui disparaît. Puis juste une remarque, vous avez tous entendu parler de la perle noire de la Kaaba à la Mecque. Eh bien, cette perle, c'est sûrement, c'est la pierre envoyée par le ciel que aurait été apportée par Raphaël et Gabriel à Abraham. Eh bien, il semble que ce soit un morceau de météorite qui a été préservé ce morceau, qui provient d'un cratère de Babar, qui est en Arabie Saoudite, à peu près à 8 km de la Mecque. Juste un petit mot, j'ai eu l'occasion d'avoir deux instruments sur la sonde de Giotto, qui a survolé la comète de Halley en 1986. Et Giotto, alors, pourquoi un jour on l'a appelé Giotto? Parce que la peinture de Giotto di Bondone, qui date de 1305, vous avez ici au-dessus l'étoile de la Nativité, ce sont les mages qui viennent, et bien, la comète de Halley, et bien, était passée en 1320. Et je pense qu'elle a dû être impressionnante, et Giotto, qui l'avait vu, l'a représenté ici, sur cette visite des mages. Et alors, c'est un résultat absolument extraordinaire qui a été trouvé avec Giotto, c'est, voilà, l'ensemble des visions qui ont été trouvées avec Giotto, toutes ces espèces-là, ça veut dire que, bon, puis il y a aussi des non-ionisés, ça veut dire que toutes ces espèces qui se ramassent de carbone, d'azote, d'oxygène, se trouvent, le carbone se trouve déjà dans les comètes. Et on sait aussi qu'elles se trouvent dans le milieu interstellaire. Alors, d'où viennent les comètes? Eh bien, je vous ai déjà parlé de la sortie de Jupiter, mais il y en a beaucoup qui viennent de beaucoup plus loin, le nuage d'Oort. La sortie de Jupiter, je vous l'ai dit, c'est au-delà de Neptune. Elle contiendrait des milliards de corps glacés, dont 70 000 le plus au 100 km. C'est des corps qui ont été balayés par les planètes géantes. Et on considère maintenant que c'est la deuxième ceinture d'astéroïdes. Il y avait des composés volatiles gelés, comme le méthane, l'ammoniac et l'eau. Donc voilà cette ceinture, donc, qui est elle aussi à peu près dans le plan de l'écliptique, au-delà de l'orbite de Neptune. Et la deuxième source de comètes, c'est le nuage d'Oort, qui est beaucoup, beaucoup plus loin, et qui entoure complètement le système solaire. C'est une sphère qui entoure complètement le système solaire. Il a la température, il est de moins de 269 degrés, donc tout est absolument congelé. Donc les comètes sont dans l'état où elles étaient au moment de la formation, il y a à peu près 4,55 milliards d'années. Et donc ce sont les archives du système solaire. Le nombre de comètes estimé est de l'ordre de 6 000 milliards. Et c'est l'origine des comètes de période supérieure à 200 ans. Voilà. Donc le système solaire tel qu'on le connaît aujourd'hui, vous avez donc le Soleil, les planètes internes, le Tellurique, la première ceinture d'astéroïdes, les planètes géantes, la ceinture de Kuiper, et bien au-delà, jusqu'à 5000 unités astronomiques. L'unité astronomique est à la distance moyenne de Terre-Soleil, 150 millions de kilomètres, donc c'est du large noir qui entoure complètement le système solaire. Donc c'est très compliqué, très complexe. Alors pourquoi étudier les comètes? Donc je vous l'ai dit, ce sont les archives du système solaire. Elles gardent les conditions donc, de physique et chimie dans lesquelles les planètes se sont formées. Et surtout, elles ont pu apporter une fraction importante de l'eau terrestre et de la matière organique et donc contribuer au développement de la vie sur la Terre. Alors, l'importance, vous avez vu ces collisions, l'importance des collisions dans l'histoire du système solaire, dans la formation des planètes, les planètes se sont formées par des collisions multiples, formation de la Lune avec un impact de la Terre primitive, d'un gros corps, ça fait le système de Terre-Lune qui a stabilisé beaucoup la rotation de la Terre, et un rôle majeur dans l'évolution des espèces. Alors la vie existe-t-elle dans le système solaire, en dehors de la Terre? Alors, pour détecter une vie extraterrestre, dans le système solaire, on peut y aller. En dehors, c'est impossible. Donc c'est uniquement par télé-éducation. Alors, pour le système solaire, où peut-on éventuellement trouver de la vie? Dans le sous-sol de Mars. Puis, on en a trouvé qu'il y avait des océans sur Europe, qui est un satellite de Jupiter, est sous la surface d'Encelade, qui est un satellite de Saturne. Donc on peut estimer que dans ces océans, il pourrait y avoir éventuellement de la vie qui se serait développée. En particulier, pour Encelade, il y a des geysers de la chaleur, de l'eau, des molécules organiques. Et puis sur les lacs de Titan, mais c'est pas du tout de l'eau, c'est du métal. Bon, jusqu'ici, aucune trace de vie terrestre n'a été trouvée, et au mieux, on trouverait une vie très peu évoluée. Dans Mars, il y a de l'eau, on sait bien qu'il y a de l'eau, mais c'est de l'eau solide. S'il y a un réchauffement, ça devient du gaz. Vous avez des traces de l'eau de fibre aussi, ça c'était très beau. Très belle photo de Mars Express. Donc l'eau a coulé dans le passé, on n'a jusqu'ici trouvé aucune trace de vie. Europe, dont je vous ai parlé, cette face glacée, avec probablement un océan en dessous. Ici, les geysers d'Encelade, dont je vous ai parlé. Et puis, les lacs de Titan, avec des îles, etc. Donc, on sait qu'il y a des molécules prébiotiques dans l'atmosphère, et des lacs de métal et d'hydrocarbures. Mais aucune trace de vie n'a pu être mise dans les villages pour le moment. Alors, hors du système solaire, eh bien, je vais parler des exoplanètes. Alors, les exoplanètes, ce sont les planètes autour d'autres étoiles que le Soleil. Alors, pour les détecter, c'est très difficile. L'imagerie directe, si vous prenez un télescope et que vous regardez une étoile, la planète ne brille que par le fait de réfléchir la lumière de son étoile. Eh bien, j'ai pris un exemple là. Si on cherche une étoile, alors si on prend une étoile comme le Soleil, et si on prend la distance Soleil-Terre, chercher une planète par vue directe, si vous prenez un phare à 1000 km, qui se voit, donc ça peut tenir compte de la Terre ronde, eh bien, ce serait chercher une bougie devant le quart à 1000 km et la bougie est à 30 cm du phare. C'est extrêmement, le phare très brillant. Donc c'est extrêmement difficile. Alors il y a d'autres moyens, et un moyen efficace, c'est quand vous avez une planète qui tourne autour d'une étoile, eh bien c'est le centre de gravité qui est fixe, et l'étoile bouge très légèrement par rapport à ce centre de gravité. C'est dans le chercher du mouvement de l'étoile. Un autre moyen, c'est l'occultation. Si une planète passe devant une étoile, ça va donner une petite diminution, une toute petite, de l'intensité de l'étoile. Alors ça, c'est des chiffres relatifs, c'est tout petit en pourcentage. Eh bien, une énorme surprise. En 1995, deux Suisses, Michel Mayor et Didier Queloz, ont publié des résultats absolument inattendus. C'était la découverte de la première exoplanète. Cette première exoplanète a été faite donc à l'observatoire de Haute-Provence. Et c'était autour d'une étoile qui s'appelle Pégase 51. Ils se sont aperçus effectivement qu'il y avait un mouvement de l'étoile. Et par ce mouvement, ils ont permis de déterminer. Ils ont hésité avant de publier le résultat parce que c'était révolutionnaire. Je vous passe le détail du calcul. Mais en calculant cette étoile qui est à peu près à 40 années-lumière, ils ont déterminé que la masse de la planète qui tournait autour de cette étoile était la moitié de la masse de Jupiter. Donc, une très grosse masse. Et ce qu'ils ont trouvé le plus extraordinaire, c'est que cette étoile, elle était très très près de. Que cette planète était très très près de son étoile. Et si bien que l'amener sur cette planète n'était que de 4 jours. Alors c'est une révolution, parce que trouver une planète géante à l'univers léger probablement si près d'une étoile, c'est tout à fait contradictoire avec ce que je vous dis au départ pour le système solaire. C'est donc une révolution, et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup hésité avant de le publier. Bon, depuis, on en a trouvé beaucoup, vous allez voir le bilan tout à l'heure, de ces plusieurs étoiles. Un premier transit, donc l'étoile qui a devant elle la planète qui passe en tournant. Alors vous voyez, c'est les valeurs relatives, pas ici, et 0,985, hein. C'est le 0, il est tout à fait là, en dessous. Eh bien, vous voyez, un premier transit de 0,985 pour montrer le passage d'une planète devant une étoile. Puis ça a été un système à trois planètes. Alors l'étoile c'est A, donc B, C et D, ce sont trois planètes. Et voilà, on a trouvé ainsi toute une série de planètes auprès d'étoiles. Donc beaucoup étaient cette masse de Jupiter, hein, vous voyez, donc très très grosse et très près. Pourquoi on a trouvé ça d'abord? Parce que c'est ça qui va nous faire le plus grand. Quand une étoile a une planète très lourde qui tourne très près, il est évident que ça donne un effet qui est mesurable beaucoup plus facilement que si c'est un petit corps qui tourne autour de l'étoile. Donc c'est un biais de mesure et ce n'est pas un résultat qui sera généralisable. Hein. Alors on en trouve dans toutes les directions. Il n'y a pas de direction privilégiée pour trouver des exoplanètes. Il y a eu deux missions spatiales très importantes. La mission Coro, qui est une mission qui a été, qui était une petite mission CNES, qui a été lancée en 2006 et qui a fonctionné jusqu'en novembre 2012. C'était un petit télescope, un télescope de 30 cm, donc c'était la méthode du transit, et ils ont trouvé, par ce parcours, 36 exoplanètes et 625 candidats exoplanètes. Les candidats, c'est ce qui doit être confirmé par les mesures. Par des télescopes. Hein. Et puis il y a eu la deuxième mission, qui est la mission Kepler, qui elle avait un photomètre de 95 cm, maintenant plus gros, qui a fonctionné de 2009 à 2013, toujours la méthode du transit, ça c'était la NASA. Et voilà, ils ont découvert 167 exoplanètes, et il y a 3538 candidats. Alors vous voyez, il y a les dimensions comme Jupiter 229. Plus grand 102, comme Neptune 1457, de la dimension supérieure à la Terre 1076, et déjà 674 des dimensions comparables à la Terre. Donc, il est certain qu'avec en améliorant les mesures, on aura de plus en plus la possibilité de trouver des planètes plus petites. Voilà le zoo de ce qu'a trouvé Kepler. Vous voyez, Kepler, il y en a de très très grosses planètes. Et puis il y en a 20 Vénus, par exemple, sont grandes comme la Terre. Donc, toute une table de planètes qui ont été trouvées. Des systèmes avec plusieurs planètes. Ici, voilà un système à 6 planètes. Le système Kepler 11, qui a 6 planètes qui tournent autour de l'étoile Kepler 11. Et le 20 février 2013, Kepler, il a annoncé la découverte d'une exoplanète de la taille de la Lune, donc nettement plus petite que la Terre. Absolument inhabitable parce que sa période habitable est de 13 jours, la température est là, donc personne ne veut, il n'y a pas d'atmosphère. Alors la situation au 1er décembre, aujourd'hui, il y a, on connaît 1047 exoplanètes, 794 systèmes planétaires, donc il y a des systèmes de plusieurs planètes, et 174 systèmes à plus de 2 planètes. On en découvre à peu près 10 par mois. Et vous voyez, en fonction des années, plus on va trouver des planètes petites. Alors, conclusion de la découverte des exoplanètes, les planètes sont donc très, très, très fréquentes. Et en dehors du système solaire, il y en a probablement un nombre gigantesque dans l'univers des planètes. Et on estime que chaque étoile est entourée d'une ou plusieurs planètes. Et notre galaxie a donc plusieurs centaines de milliards de planètes. Alors sommes-nous seuls dans l'univers? C'est une question qu'on se pose évidemment depuis que l'ombre passe. Et il y a eu un certain nombre de déclarations. Vous savez que Épicure, par exemple, écrivait en 300 avant Jésus-Christ, les mondes sont en nombre infini. On ne saurait démontrer que dans tel monde, des germes tels que deux se forment les animaux et les plantes et tout le reste de ce qu'on voit pourrait n'être pas contenu. Alors il y a eu donc Lucrèce, Jean-Marc Brunel, Fontenelle, Huygens, Kant et bien d'autres. Et j'aurais une pensée tout à fait particulière pour Jean-Marc Brunel. Vous savez que Jean-Marc Brunel a été brûlé en 1600 à Rome, justement, pour ses théories. Il était avant professeur à Toulouse, il aurait mieux fait de rester. Bon, alors, Fontenelle. Eh bien, Fontenelle, vous voyez, il a vécu 100 ans, Fontenelle, et il a été secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences pendant 38 ans. et il s'est beaucoup intéressé à la pluralité des mondes. Voilà un dessin où il y avait le système solaire et puis plein d'autres systèmes stellaires tout autour. Ça, c'est la septième édition qui date de 586. Et il avait fait des entretiens qui sont absolument étonnants. Bon, la Terre est une planète qui tourne sur la même autour du Soleil. Bon, la Lune est une Terre habitée. Ça, c'était pas tout à fait vrai. Particularité du monde de la Lune et que les autres planètes sont habitées aussi. C'est pas vrai que je vais être un peu d'or. Particularité des mondes de Vénus, de Mercure, de Mars, de Jupiter, de Saturne, que les temps fixes sont trop pâles du Soleil dont chacun éclaire un monde. Nouvelle pensée qui confirme celle des entretiens précédents, dernière découverte qui a été faite dans le ciel. C'était tout à fait intéressant, déjà donc, au XVIIe siècle, au début du XVIIIe. Alors, l'apparition de la vie sur Terre, c'est une question ouverte. Il y a eu probablement un apport externe de molécules prébiotiques et d'eau par les comètes. Alors, il y a certaines théories qui disent que ça vient du fond des océans. J'ai tendance à penser plutôt que c'est la première théorie qui est la bonne. Alors, les éléments nécessaires, pour liquide, carbone, source d'énergie, eh bien, pour vous prenez le soleil comme énergie, et puis tous les composants, et on arrive à ça. La vie, qu'est-ce que c'est? Et vivant tout système ouvert, capable de faire de lui-même par lui-même, capable d'évoluer. Autoproduction, autorégulation, évolution par mutation. Et dans ce cas-là, on considère que les virus ne sont pas autonomes dans le non-vivant, et que les cristaux vivants ne sont pas vivants. Alors, l'eau et la matière carbonée, on en trouve partout dans l'univers, et on a identifié par radioastronomie au moins, mais je pense même non plus, 130 molécules organiques. Un mot sur le programme SETI, c'est un programme qui écoute l'univers et qui cherche s'il y a des traces de signaux d'extraterrestres. Ça ne marche pas. Mais je pense que j'ai beaucoup de doutes sur ce programme, qui d'ailleurs n'est plus financé par la NASA. Parce que la probabilité d'avoir un signal qui vient de très loin et juste dans notre direction, c'est hautement improbable. Voilà le signal qui est émis. Il y a réception et émission. C'est un signal, on essaie d'expliquer ce qu'est l'humanité. Bon. Alors la véritable question, il y a une tribu. Il y a une tribu de la forêt amazonienne, d'à peine 200 personnes, les Pirahas. Et ici, ils comptent 1, 2, beaucoup. Alors, pour la vie dans l'univers, pour le moment, on est sur Dieu. Et si on arrive à deux, eh bien, ça pourrait beaucoup très vite. Alors, la zone habitable, pour les planètes, il y a un endroit où la zone est habitable. Vous voyez que Mercure, Vénus, Mars et les autres ne sont pas en zone habitable. Seule la Terre, c'est la région où l'eau est liquide. Alors, vous voyez, le Soleil, ici, si l'étoile était plus grosse, la zone habitable serait plus loin. Si l'étoile était plus petite, évidemment, la zone habitable serait plus près de cette belle étoile. Eh bien, on a trouvé des systèmes, par exemple Kepler, le système Kepler 62, avec toutes ces planètes ici, là. Eh bien, il y en a, celle-ci, et celle-ci paraissent. Être dans la zone habitable, Kepler 62e avec une année de 122 jours et Kepler 62f avec une année de 267 jours. Donc, c'est peut-être là un endroit où il pourrait y avoir de développement de la vie. Et donc, voilà, on a en fait aujourd'hui quelques candidats, quelques étoiles, vous voyez en bleu, qui pourraient être des endroits habitables. Alors, habitable ne veut pas dire habiter. Habitable, ça veut dire. Bon. Pour habiter, la différence, par exemple, des choses qui sont intéressantes, les habitables, il y a de l'eau liquide, les habités, il y a de l'ozone, par exemple. Si on trouvait des rhizosomes, vous voyez la Terre, il y a l'ozone, au 3, ça n'est pas sur Vénus, ça n'est pas sur Mars. Si on trouvait dans l'atmosphère d'une planète des traces, des exoplanètes, des traces d'ozone, eh bien, ça, j'aimerais bien le voir. Ça serait ainsi énorme. Un mot maintenant sur le voyage interstellaire. Donc, il faut voir, ici, vous avez au centre le Soleil et les 33 étoiles en moins de 12,5 années-lumière du Soleil. pour donc se déplacer, pour aller autour de notre système, il faudrait choisir une de ces étoiles. Alors la tendance, ça serait évidemment de choisir la plus près, approximativement du Centaure, qui est quand même à 4,3 et pour vous donner l'idée, Saturne 5, qui a envoyé les hommes sur la Lune en 1969, la puissance représentait 40 000 millions de watts, soit à l'époque 0,5% de la puissance mondiale de l'énergie fournie cette année. C'est énorme. Mais c'était pour envoyer quelques centaines de kilos et pas loin. Alors, pour quitter le système solaire, il faut en fait une énergie colossale. Et puis, il faut bien se rendre compte, c'est pas tout de partir. Il faut s'arrêter quand on arrive. Donc, il faut la même énergie pour s'arrêter. Eh bien, pour un voyage raisonnable, il faudrait au moins atteindre un dixième de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 30 000 km par seconde. Et même à cette vitesse, vous voyez, 43 ans pour arriver à l'étoile la plus proche. C'est considérable comme différence. L'énergie cinétique qu'il faut, l'énergie cinétique, c'est donné par une relation très simple, 1/2 de MV2, 1/2 de la masse par le carré de la vitesse. Si on prenait un vaisseau spatial de 1000 tonnes pour atteindre cette vitesse, un dixième de la vitesse de la lumière, avec un rendement de 100%, voilà l'énergie qu'il faudrait. Hein? Un joule, c'est-à-dire quand les énergies puissantes se mettent, joule, je vous rappelle à titre de comparaison, qu'en 2007, toute la Terre a consommé à pratiquement la même quantité. Et sur l'année, alors que là, il le faudrait de l'espace. Hein? C'est absolument énorme. Alors, pour arriver à cette énergie, je vais passer très vite, mais il y a plusieurs moyens qu'on a imaginés. Le moteur antimatière, bon, mais là on a fabriqué, on peut produire 0,6 milliardième de grammes d'antiprotons par an au CERN à Genève. Pour aller là-bas, pour se partir, il faudrait des milliers de kilos d'antimatière. Pour l'instant, c'est absolument irréaliste. Alors, un banc de lumière par la lumière solaire et puis par des lasers très puissants qui poussent le vaisseau au départ. Oui, très bien, et à l'arrivée. Et puis, de toute façon, il faudrait. Bon, c'est cela aussi envisageable. L'aspirateur interstellaire, on a pensé collecter l'hydrogène comme carburant pendant le voyage, et puis quand on fait le calcul, on se demande si la collecte de l'hydrogène ne va pas plutôt ralentir le vaisseau que l'accélérer. Et enfin, la fusion nucléaire, et là aussi tout à fait inenvisageable. Il faudrait. Pour partir 30 000 tonnes d'hélium 3 et 20 000 tonnes de deutérium, et puis quel réacteur aussi, bon, c'est absolument impossible. Donc, dans les connaissances actuelles, la durée, pour aller à l'étoile la plus proche, durée minimale de 90 ans à la vitesse de 30 000 km par seconde, et vous avez vu que c'est très difficile, pratiquement impossible d'y arriver. Nécessité d'emporter de quoi vivre pendant tout ce temps, alimentation, médicaments, énergie, etc. Nécessité d'une fiabilité absolue. Nécessité de renouveler les générations en cours ou d'augmenter la durée de la vie humaine, des choses faciles. Et la nécessité de trouver une énergie suffisante. Vous voyez, le voyage interstellaire, ça pose quand même quelques problèmes. Alors, et l'homme dans l'espace. L'homme dans l'espace, les principaux troubles, les troubles cognitifs, les troubles vestibulaires, neurosensoriels, des conditionnements cardiovasculaires, osteoporose, troubles nutritionnels, métaboliques. Approche musculaire et troubles neurologiques. Vous avez vu arriver sur la Terre quand ils ont fait un mois dans l'espace qu'il faut les accueillir. Alors eux, il n'y aura personne pour les accueillir. Probablement. Et dans quel état, donc, les troubles nutritionnels, alors santé, le moral, la performance, même pour une mission de 3 ans sur Mars, il faut quand même emporter 22 tonnes de nourriture à 18 000 euros le kilo, bon, c'est cher et puis c'est lourd. Bon, alors conclusion sur le voyage interstellaire. Eh bien, sauf découverte extraordinaire et fort improbable, le voyage interstellaire restera du domaine du rêve. On peut y aller immédiatement, en rêvant. Mais dans la réalité, c'est beaucoup plus difficile. Alors, ni les technologies actuelles, ni la production mondiale d'énergie, ni les moyens financiers exorbitants nécessaires, ni les problèmes humains du voyage ne permettent cette aventure pour les prochains siècles et probablement pour toujours. C'est pourquoi, s'ils existent, Nous ne voyons pas les extraterrestres parce que pour venir, ils ont les mêmes problèmes. Alors, je vais rappeler quelques données. Donc, notre galaxie compte environ 200 milliards d'étoiles. Une étoile jeune sur deux environ est entourée d'un disque de poussière, comme l'a été le système solaire au départ. Chaque étoile pourrait avoir une ou deux planètes pour elle. On estime à des milliards le nombre de planètes en zone habitable de notre galaxie. Et il y a au moins des centaines de milliards de galaxies. Conclusion. Le système solaire est en cours d'exploration, donc il ne semble pas avoir de la vie à l'exception de la Terre. Dans la recherche de planètes dans le système solaire, avec des résultats initiaux tout à fait inattendus, eh bien, on a trouvé maintenant énormément d'étoiles et entourées de planètes, et donc on peut penser que chaque étoile a des planètes. Donc les données actuelles sont évidemment de trop partielles et biaisées par le fait que seuls les effets forts ont pu être mesurés. Les planètes donc sont par milliards de milliards dans l'univers. L'existence de très nombreuses planètes telluriques est sûrement très très élevée et la vie ailleurs. Alors évidemment il n'y a pas de preuve formelle à ce jour que la vie existe ailleurs que sur la Terre. La vie a peut-être démarré sur la Terre grâce à des molécules de carbone, de poussière arrivées depuis l'espace. Si c'est le cas, les premières briques de la vie, telles que celles mises en évidence sur la Terre, devraient être répandues dans d'autres systèmes planétaires de notre galaxie et dans bien d'autres galaxies. Comment imaginer un univers aussi immense sans être notre vie que sur la Terre? En revanche, la probabilité de l'existence d'êtres nous ressemblant est impossible à chiffrer et sûrement beaucoup plus petite car nous sommes le résultat de hasard multiple. Ainsi, si les dinosaures n'avaient pas disparu il y a 65 millions d'années, comme je vous disais tout à l'heure, serions-nous là? Donc, si la vie et l'évolution existent ailleurs que sur la Terre, il est peu probable que celle-ci soit très proche des hommes ou de ce que montre les films de science-fiction dont les créatures ressemblent en général invariablement au genre humain. Donc, la vie ailleurs est très très probable, mais les distances énormes rendent très difficile la détection de traces lointaines de vie. Les contacts entre civilisations devraient rester très improbables. Ces contacts étant très difficiles à établir, la lumière et les ondes étant très lentes aux échelles de distances concernées, et la durée de la civilisation évoluée était certainement beaucoup trop courte. Imaginez qu'il y ait des êtres vivants évolués, même autour de Alpha du Centaure. Vous envoyez un signal, il met 4 ans, 3 années pour arriver, mais tant qu'il soit perçu, et le temps que ça réponde, il faut 4 ou 3 années, il faut qu'on soit tout justement dans la bonne longueur d'onde, etc. Donc, c'est extrêmement probable. Alors, les rencontres entre civilisations avancées sont extrêmement difficiles, sinon impossibles, en raison des énormes énergies nécessaires au voyage interstellaire. Quant à la colonisation de nos galaxies, comme elle a été envisagée par un de mes collègues, par des êtres vivants, je pense que ça reste de l'utopie complète. Donc, conclusion générale, nous n'avons donc à ce jour aucune preuve d'une vie hors de la Terre. Pour tout esprit cartésien, le doute, forcément, existe. Mais cela n'empêche pas d'avoir une conviction. Et celle qui pourrait être confirmée, au moins je l'espère, dans les années à venir, en découvrant que nous ne sommes pas seuls, ce qui paraît quasiment incontournable. Merci pour votre attention.